Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast. Bienvenue à toutes et à tous avec ma femme d'aujourd'hui. Eh bien, on va parler de reconversion professionnelle, mais pas tellement en fait. J'ai presque l'impression que c'est un retour aux sources. Vous allez comprendre pourquoi. On y va pour les détails.
Midi 1, Yasmine, femme d'aujourd'hui.
Selma Al-Amraoui, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être ma femme d'aujourd'hui. Comment ça va, Lala Selma?
Très très bien, merci beaucoup pour l'invitation.
Alors Lala Selma, vous avez une ferme labellisée agroécologie à Tifelt, siècle.
Exactement, c'est bien ça.
Est-ce que vous avez toujours été une femme de la terre, une femme d'agriculteur, d'agriculture,
pas
pardon?
Pas du tout, pas du tout. Mes parents ne sont pas du tout agriculteurs. Dans ma famille, bon, il y a des oncles qui sont agriculteurs et tout, mais mes sœurs, mon frère, on a fait des études supérieures. On n'est pas du tout dans ce domaine. Et cette conversion, on va dire, est venue par hasard. Et finalement, c'est quelque chose qui me plaît, qui me parle. Donc, c'est pas vraiment une vocation dès le départ, mais j'ai trouvé ma voie, on va dire.
Ouais, ouais. Aujourd'hui, quand on vous dit bonjour, madame, vous dites Selma et vous êtes agricultrice. Vous présentez.
Exactement.
Yek, vous dites agricultrice.
Oui.
ça étonne, ça choque, ça surprend. Qu'est-ce que ça fait?
Pas vraiment, pas vraiment, parce que au Maroc, il y a beaucoup de femmes agricultrices. Peut-être que c'est pas un métier, on en fait pas un métier, mais elles naissent agricultrices, elles naissent
c'est
dans
vrai.
Des villages, dans des fermes, dans la campagne, mais on ne nomme pas ça vraiment comme un métier. Mais il y a plusieurs femmes agricultrices au Maroc. Il y a de plus en plus de ça.
Oui. Alors, vous avez dit, c'est une reconversion professionnelle en fait. Vous étiez dans quoi avant?
Moi, j'étais dans le domaine paramédical. J'ai fait des études en tant qu'orthoptiste, par la suite en tant qu'opticienne.
Okay.
Et j'ai travaillé dans ces domaines pendant presque 10 ans ou plus. Et par la suite, j'ai changé de métier.
D'accord, c'est des métiers d'aide quand même, orthoptiste.
Oui.
C'est des métiers d'aide, c'est-à-dire c'est des métiers qui ont un sens. Parce que, allez, je vous dis ça, parce que souvent, quand je discute avec les femmes qui me disent... J'ai fait un changement de cap professionnel, c'est souvent parce que, quand je dis pourquoi, Katgouli, ça manquait de sens.
Oui, oui. En fait, ça ne manquait pas de sens, c'est juste que, on va dire que je n'étais pas pleinement épanouie dans ce métier. Mais ça, tous les métiers pour moi ont du sens. Mmh. Quel que soit le métier, ça a du sens. C'est juste que pour moi, je n'étais pas complètement épanouie. Je voulais vraiment être plus en contact avec la nature, plus dans le rythme de la nature, on va dire.
Ok. Qu'est-ce qui a fait que la femme que vous étiez à ce moment-là a eu besoin de se connecter au rythme de la nature? Alors que, comme on dit, Bint Lmedina, vous avez fait des études, vous avez travaillé, etc. Qu'est-ce qui a fait que... Ce sentiment est né en vous?
En fait, ça a été toujours en moi. C'est juste que je n'arrivais pas à mettre des mots dessus.
Mmh.
Et le contact avec la nature, les choses simples, les choses vraiment très, très simples, où il n'y a pas beaucoup de superficiel. Ça m'a toujours parlé, en fait. Je fais attention à ce que je mange, je fais attention à ma santé, je fais attention à mon entourage. Donc, j'ai toujours été... dans tout ce qui est naturel, dans tout ce qui est vraiment sans produits chimiques, les choses qui ne nuisent pas à la santé. Donc, ça m'a toujours parlé de tout ça. Et puis, l'agriculture, c'est venu vraiment comme une suite de tous ces événements. Donc, l'agriculture, c'est l'agroécologie, justement, c'est le fait de cultiver la terre tout en respectant la nature, tout en respectant les saisons, en ayant des produits sains. Sans produits chimiques, sans engrais chimiques, mais vraiment, c'est des choses qui nous ramènent un petit peu à la terre et qui prennent soin de notre santé.
Ati, je regarde vos photos sur Instagram où Tchehit Srihadil, la terre en fait. Tchehit, l'odeur de la terre. Alors, en même temps, vous racontez ça avec tellement de naturel, mais ce n'est pas aussi simple que ça parce que vous étiez dans un domaine d'activité précis. Et puis, vous vous êtes lancé dans un autre domaine d'activité, C'est pas juste un mode de vie, c'est aussi votre gagne-pain avec cette ferme labellisée agroécologie. Et en fait, c'est un savoir-faire. Le savoir-faire, vous l'avez développé comment? Comment vous l'avez eu? Est-ce que vous êtes formé? Et à quel moment vous vous êtes dit stop, j'arrête ça et je passe à ça, j'investis, j'achète une terre, j'investis du matériel, de la formation. Il y a quelque chose qui me manque en fait dans le
Oui.
passage.
Alors, on est deux dans ce projet. Je ne suis pas la seule, en fait. On est deux. Je suis avec mon mari. C'est lui qui a commencé toute cette aventure, en fait, dans le petit jardin familial à la maison. Et il a commencé à s'intéresser, en fait, à tout ça, à planter des courgettes jaunes, à planter des graines de basilic mauve, des choses qu'on n'a pas vues, en fait, qu'on n'a jamais vues dans les soupes. Et c'est ça qui nous a un petit peu intrigués. Et on a commencé à chercher. Lui, il a commencé à chercher, en fait. Il a commencé à apprendre des techniques. Il s'est formé sur Internet. Il a visionné beaucoup de conférences, des choses comme ça. Et par la suite, pendant le confinement, il n'y avait personne qui allait prendre soin de ce jardin. Comme lui, il travaillait, moi, je suis restée à la maison. Donc, je me suis dit, je m'en occupe. Et dès que j'ai commencé, en fait, à regarder les plantes, à les observer, à toucher la terre, à travailler la terre et tout, ça m'a tellement paru évident, en fait, que je me suis dit, c'est ce qu'il me fallait, en fait, pour compléter le tableau, compléter. C'était la pièce qui manquait au puzzle que j'avais, en fait, dans ma vie. Et en fait, justement, ce petit changement, le déclic, il est venu suite au Covid. Après le Covid, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont posées plein
C'est
de questions par rapport
incroyable,
à ça.
cette pandémie,
Oui.
Schneider-Thunès.
Oui, parce que bon, quand tu vois tout le monde qui dit stop, qui est arrêté, tu remets tout en question, et c'est là où vraiment cet événement s'est concrétisé. On a acheté une terre de 4 hectares dans la région de Khmisset, vers Tifinagh, et c'est là où on a commencé à faire les installations nécessaires, à planter des arbres. On essaye toujours de créer un écosystème pour que tout soit cohérent.
Donc en fait, ce qui a commencé dans le petit jardin de la maison,
Oui.
et ensuite, subhanallah, c'est une
Pour faire
succession de choses en fait.
ça.
C'est ce
Exactement.
petit bouffe jardin à la maison, une pandémie, rester à la
Oui.
maison, voir ces éléments pousser, attention, qui va en prendre soin? Ok, je vais en prendre soin, ben je mets une touche. Et puis, à partir de là, le déclic, l'amour pour la terre et l'amour pour l'agriculture. Et donc, on
En fait,
achète. C'est courageux quand même.
oui, c'est courageux, mais en fait, l'idée, elle ne vient pas toute seule. L'idée, elle mûrit pendant plusieurs années, plusieurs mois. Et à un certain moment, ça y est, à un certain moment, tu te dis, maintenant, je me lance. Et comme la nature, elle prend beaucoup de temps pour donner ses fruits, donc pour nous, c'était un projet de retraite, certes, mais qu'il fallait commencer très, très tôt.
C'est
C'est
ça.
pour ça qu'on est jeune et qu'on a commencé très tôt. Il y a beaucoup de gens dans mon entourage qui me disent, je laisse ça pour la retraite, mais à la retraite, en fait, à 60 ans ou 65 ans, quand tu vas planter un arbre, il va donner son fruit quand tu as 80 ans. Donc, il faut en même temps prendre ces choses en considération. Il faut commencer les choses tôt et donner le temps à la nature pour qu'elle puisse vraiment te rendre ses fruits.
Mais quand vous dites c'est un projet de retraite, c'est loin d'être un projet de retraite aujourd'hui, parce que
Bien
travailler la
sûr, oui.
terre,
C'est plus un projet de retraite, au contraire, c'est un projet de vie
c'est un
maintenant.
projet de vie exactement, qui peut
Exactement,
durer
oui.
toute la vie. C'est ça qui est magnifique
Oui,
en fait, c'est
oui,
qui peut
oui.
durer toute la vie. Est-ce qu'aujourd'hui c'est un projet de couple? Est-ce que vous travaillez ensemble?
Alors, lui, il garde quand même son travail.
D'accord.
Et moi, je m'occupe de la ferme, mais on est deux quand même. Lui, on est deux à réfléchir dans ce projet, et c'est très très bien pour nous en tant que couple de garder une interaction très positive par rapport à ce projet, parce que il y a des fois dans des couples ou dans des familles, ils n'ont pas la même vision, ils n'ont pas les mêmes idées. Du coup, malheureusement, ils laissent ce projet de côté et les choses se perdent. Donc, il faut vraiment que ce soit dans la famille ou dans le couple, que les deux personnes, toutes les personnes soient d'accord pour le même but ou avoir la même vision au moins de la chose, pouvoir avancer ensemble.
Absolument la même vision, mais il y a un seul capitaine, c'est-à-dire celle qui est là tout le temps, c'est vous en fait.
Oui, mais on est deux quand même à réfléchir on réfléchit à ce qu'on va planter, on réfléchit à ce qu'on va, comment on va installer les choses, comment on va mettre les choses en œuvre, comment on va, des fois, juste pour installer juste un poulailler, il faut une réflexion à deux parce que lui, ses idées, elles sont très très bien, mais des fois, je rajoute une petite touche qui va peut-être changer la donne. Ou moi, par exemple, j'ai un rêve que j'ai envie de réaliser qui peut ne pas être réalisable. Lui, il peut m'aider à le concrétiser. Donc, c'est vraiment un équilibre qu'on a trouvé dans ce projet.
C'est en fait la nature, la terre vous a davantage rapproché.
Oui,
Ça a changé votre couple,
exactement.
justement, la dynamique de votre couple?
On a juste trouvé un autre sujet de discussion, tout simplement. Mais au départ, on était vraiment très équilibrés en tant que couple. Ça nous a juste permis en fait de se projeter dans un projet ensemble.
C'est important d'avoir ce projet ensemble, ce projet qui a commencé au départ comme un projet de retraite. Déjà le fait de réfléchir à un projet de retraite de couple, je trouve ça formidable, c'est très important en fait. Et peut-être qu'on peut, en tant que femmes toutes les deux, passer ce message aujourd'hui à notre communauté de femmes d'aujourd'hui, qui est que, en fait, on ne réfléchit jamais à cette période-là, on ne l'anticipe pas.
Oui.
Ce qui se passe, c'est que ce qu'on a, c'est qu'à un moment, les enfants partent de la maison. On a malheureusement le syndrome du nid vide qui s'installe, c'est-à-dire pendant des années, le couple s'est transformé en parents et a oublié le couple. Et quand les enfants partent de la maison, le couple ne sait plus être un couple, en fait, parce que ça fait des années qu'il ne l'a pas été.
Oui, effectivement, la majorité des couples retraités ou mes parents ou des gens qui sont autour de moi, ils ne réfléchissent pas en fait à un projet commun de retraite. Parce que quand tu travailles toute ta vie, à un certain moment, quand tu arrêtes l'activité, forcément, tu perds tes repères. Donc, il faut vraiment s'occuper, mais pas s'occuper au moment de la retraite. Au contraire, il faut anticiper ça. Et heureusement que mon mari, justement, il m'a un petit peu mis la puce à l'oreille avant que ça soit pas trop tard, mais on est encore jeune, mais juste, il m'a dit, en fait, la retraite, il faut vraiment l'anticiper à l'avance. Et pour nous, bon, ce qui était justement un projet de retraite, en tant que couple, est devenu un projet, mais justement, j'incite tous les couples de réfléchir en fait à des activités, à un projet ensemble, à peut-être comment occuper son temps, à faire toutes les choses qu'on n'a pas pu faire en tant que fonctionnaire ou en tant que salarié, et de pouvoir trouver les moyens ou le temps, justement, pas le temps, mais surtout les moyens de concrétiser ça à l'âge de la retraite.
C'est beau que ce soit venu. On dit souvent que c'est la femme qui s'occupe le plus de son couple. Mais c'est beau aussi que ce soit un homme qui soit venu vers sa femme pour lui dire, il faut qu'on ait un projet de couple, en fait. Il faut qu'on ait
Oui.
un projet de retraite.
Oui. Non, je vous ai dit, on a trouvé un bel équilibre en fait entre les deux, mais c'est rare, c'est vrai. Mais au contraire, il y a des hommes qui sont très très meneurs dans la vie de couple. Et peut-être qu'ils vont pas faire les choses que les femmes peuvent faire, mais il faut que la femme aussi comprenne ça. Elle va pas exiger des choses que l'homme il peut jamais faire. Donc, on a essayé de trouver, mais cet équilibre.
Alors, en même temps, quand on travaille la terre, quand on gère une ferme, on a un autre rythme de vie. Avant, vous aviez un boulot classique, j'imagine avec des horaires classiques,
Oui.
un cabinet qui était proche. Là, vous êtes loin.
Exactement.
Voilà, vous faites la navette tous les jours. Vous êtes basé à Rabat, c'est ça?
On est basé sur Rabat, on fait la navette une à deux fois par semaine et les week-ends, c'est officiel, on est à la ferme.
Vous êtes installé là-bas.
Oui.
Donc la semaine, vous partez pas tous les jours.
Non, pas tous les jours. Des
Non.
fois, c'est un jour oui, un jour non. Des fois, c'est une fois par semaine ou deux fois par semaine. Ça dépend.
Donc en fait, ça donne un nouveau rythme de vie, tout ça.
Oui, exactement. C'est pas les mêmes horaires, justement, en tant que quand j'étais dans le libéral, c'est pas la même chose. Ça fait plus que le libéral, mais il faut vraiment bien gérer son temps. Il faut vraiment bien gérer sa. En fait, la terre, c'est vrai qu'elle prend beaucoup de temps pour donner ses fruits, mais il faut bien gérer les choses. Par exemple, si je plante pas une telle chose au moment convenu, ça va pas donner son fruit quand il va falloir que ça donne son fruit. Du coup, il faut vraiment bien organiser les choses. On a des agendas, on a des plannings, on a des choses comme ça. C'est pas de l'agriculture traditionnelle comme on la connaît, mais je pense que de plus en plus de jeunes font ça. Mais c'est plus une agriculture où il y a de la planification. Il y a de la planification, il y a une programmation, il y a vraiment des choses à anticiper à l'avance pour pouvoir arriver à un résultat. Mais sinon, si tu fais juste les choses, tu laisses la nature faire les choses, peut-être qu'elle ne va jamais te donner un bon résultat, justement.
Alors, vous dites planifier. Est-ce qu'on arrive à planifier face à la nature, surtout aujourd'hui, avec tous les défis du réchauffement climatique, des problèmes de stress hydrique, de pluie qui manque? Est-ce que ça, c'est... Est-ce que quand on est agriculteur ou agricultrice comme vous, est-ce que c'est un élément de stress constant?
C'est un élément de stress constant, oui, bien sûr. Mais en fait, ce n'est pas un stress dans l'urgence. La réaction, ça ne nécessite pas une réaction dans l'urgence. Du coup, tu as un peu de temps pour pouvoir anticiper les choses. Mais c'est vrai que ça reste quand même beaucoup de réflexion à porter et beaucoup de ça peut ne pas donner justement des choses qui peuvent être très positives pour toi, mais il faut anticiper les choses. Donc c'est vraiment moitié-moitié, c'est 50-50.
Alors quand,
ça peut ne pas dépendre de toi.
Bien sûr.
Donc ça, tu dois juste bien l'anticiper à l'avance, mais tout ce que tu peux gérer, il faut le faire, tout simplement. Et la nature, elle va faire son rythme, elle va suivre son rythme. Des fois, par exemple, tu plantes des arbres, tu attends qu'elle pousse, que ça donne ses fruits, mais à un certain moment, il y a une maladie qui va attaquer, un puceron, quelque chose comme ça. Là, il faut anticiper. Donc, tu sais que ça peut être malade, donc il faut prévoir les traitements que tu vas faire. Bon, on parle toujours des traitements naturels, mais il faut prévoir à l'avance. Il faut vraiment travailler dans la prévention. Peut-être qu'une année, ça ne va rien donner. Peut-être que ça va... Donc, ça te pousse encore plus à la réflexion. Pourquoi ça n'a rien donné? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Est-ce qu'il y a... Donc, tu es toujours, en fait, dans la réflexion. Mais tu ne travailles pas dans l'urgence. C'est ça ce qui est plus agréable.
C'est, en fait, ça prend beaucoup de résilience.
Oui.
Énormément.
Oui, exactement.
Parce qu'en fait, c'est du commitment. On se donne au quotidien. On se donne à cette terre, on la travaille, mais on ne sait pas ce que ça va donner.
Normalement, plus tu donnes à la terre, plus elle te le rend bien. C'est vraiment, la terre, elle est très, très généreuse. Il faut juste bien travailler les choses et il faut être conscient et accepter les chutes et accepter que des choses ne vont pas bien donner, même si tu as très bien travaillé la terre. Mais ce qui est dans la globalité de la chose, la terre, elle te rend toujours ton travail. Il faut du temps, en revanche, il faut du temps.
Vous restez quand même très positive par rapport à ça, je le sens, parce que on sait que bon, elle le rend bien sûr, mais il y a tous ces éléments qu'on ne contrôle pas. J'ai l'impression que quand vous parlez de la terre, vous en parlez comme vraiment une relation de tendresse et d'affection qu'il y a entre que vous ressentez vis-à-vis de votre terre.
Oui. Vis-à-vis de la nature en général, exactement, vis-à-vis des plantes, vis-à-vis des rythmes des animaux, vis-à-vis de tout ça, la chose qui peut ne pas vraiment rentrer dans tout ce projet, enfin qui peut gêner tout ce rêve ou la nature, c'est le manque d'eau, tout simplement. Mais tout le reste est gérable. Mais s'il n'y a pas d'eau, il n'y a rien.
Alors, quand on est face à quand même aux caprices de la nature, quand on est face à toutes ces choses-là dont on a parlé, ça apprend la résilience, certes, mais en même temps, le quotidien, la vie, les charges ne pardonnent pas.
Bien sûr, bien sûr. C'est beaucoup d'investissements. C'est pas évident, en fait, d'assurer. C'est pour ça qu'il faut, en fait, comme tout le monde, quand on rêve d'un projet comme ça ou quand on rêve d'acquérir un terrain, on a envie de tout faire. On a envie d'avoir des vaches, des moutons, des poules, des ponts, tout. On a envie de planter toutes les variétés d'arbres. Mais à un certain moment, il faut vraiment rester terre à terre et ne pas trop partir et suivre ces rêves qui ne vont peut-être jamais se réaliser et rester vraiment terre à terre et faire le minimum qu'on peut faire pour avoir le maximum sans beaucoup d'efforts. Et ça, on apprend avec le temps. Nous, la première année, on a fait beaucoup d'erreurs, justement. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas ne pas installer. Par exemple, l'arrosage, le goutte-à-goutte, ça c'est essentiel pour pouvoir économiser l'eau. Les panneaux solaires, justement, ça c'est essentiel aussi. Mais c'est des investissements que tu fais une seule fois. Et par la suite, il faut vraiment minimiser les charges pour pouvoir, pour que ça ne soit pas en fait lourd pour toi. Il faut que ça soit vraiment quelque chose d'agréable.
Mais c'est important qu'il y ait aussi dans le couple, dans la maison, un revenu fixe qui rentre.
Bien sûr, bien sûr.
C'est important parce que ça permet de protéger en fait le foyer.
En fait, c'est comme tous les projets. Il ne faut pas prendre ça. Oui, je vais prendre un terrain, c'est agréable.
Oui,
je vais
c'est
être avec la nature. Non, ça reste quand même un projet. Et comme tous les projets, il faut un temps pour pouvoir amortir les charges. Il faut un temps pour pouvoir avoir des revenus stables et fixes. Il faut un investissement initial. Donc, c'est vraiment, il faut le prendre comme un projet. Mais avec le temps, ça devient, il faut plus que ça soit un projet. Il faut que les choses se fassent naturellement. C'est ça le plus important. Quand on ouvre un cabinet ou un cabinet de comptabilité ou un cabinet de d'avocat ou n'importe quel projet ou un café ou n'importe quoi, on a besoin d'un montant fixe, enfin un grand montant d'investissement. On a besoin de charges fixes. On a besoin de la première année, peut-être que ça ne va pas très bien marcher. La deuxième année, un peu moins, la deuxième, enfin un peu plus, ça va marcher mieux, la troisième année, ainsi de suite. Jusqu'à un certain moment, on sait combien on rentre d'argent, on sort d'argent, on a des charges fixes, on connaît en fait les dessous du projet. Mais le but, justement, c'est qu'au bout de cinq années, six années, c'est que les choses se font vraiment d'elles-mêmes.
C'est ça. En fait, c'est de l'entrepreneuriat. Il faut garder ça en tête. La nature, le fait que ce soit la nature, que ce soit l'agriculture, que ce soit dans la tête de beaucoup, justement, comme vous l'avez dit tout à l'heure, eh bien, on est agriculteur ou là, on est agricultrice. Bon, ce n'est pas votre cas, mais on ne pense pas forcément à l'aspect entrepreneurial derrière. On pense juste à l'aspect produire de la terre, faire vivre la terre. Et donc,
quand on parle justement de projet, par exemple, de retraite ou bien un projet de retraite, ça peut être un projet de retraite, mais on ne va pas prendre, par exemple, on peut prendre qu'un demi-hectare, c'est plus que suffisant. On n'a pas besoin de vraiment avoir un grand terrain pour avoir un projet de retraite. Un petit terrain, tu vis par exemple dans 70 mètres carrés ou 100 mètres carrés, si tu prends rien qu'à 5000 mètres carrés, c'est énorme.
Exact.
Donc ça, les charges sont minimes, même les charges fixes, elles vont rester quand même minimes. On peut ne pas considérer ça comme un projet, mais quand on prend un terrain grand, 4 hectares ou plus, 10 hectares, 20 hectares, il y a beaucoup de charges quand même. Et ça, on ne peut plus le considérer en fait comme un projet de plaisance. C'est plus un projet productif.
C'est ça, c'est de l'entrepreneuriat.
Oui.
Vous êtes dans ce projet-là, justement. Vous êtes dans cette forme-là, puisque en fait, ce que vous faites, c'est que vous produisez, mais vous vendez, bien sûr, à des particuliers, YEC ?
Oui, exactement.
À des particuliers. Lalla Selma Al-Amraoui, merci infiniment d'avoir été ma femme d'aujourd'hui et d'avoir partagé avec nous justement ce parcours de vie avec des changements, mais en même temps beaucoup de sérénité, puisque tabarkallah, on sent vraiment avec la symbiose au niveau du couple et la symbiose du couple avec la terre.
Merci beaucoup, c'est très gentil. Merci à vous.
Merci à toutes et à tous pour votre confiance. Femme d'aujourd'hui et sa version homme, c'est du lundi au vendredi sur les ondes de Médien et à tout moment, à la demande et en avant-première sur Médien Podcast et les plateformes de podcast habituelles.